Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 14h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par le conflit en Libye. Les 5 pays voisins de la Libye se sont retrouvés ce jeudi matin à Alger dans le cadre des efforts internationaux visant à favoriser le règlement politique d'une crise qui menace la stabilité régionale. Participant à la réunion dans la capitale algérienne, les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie, de l'Égypte et du Tchad, ainsi que des diplomates du Soudan et du Niger. Est également présent le ministre allemand des Affaires étrangères et e-commerce, qui doit informer les participants des résultats du sommet international de Berlin sur la Libye dimanche dernier, au cours duquel il a été promis de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires intérieures libyennes. Les deux principaux leaders rivaux libyens qui s'affrontent dans le pays, à savoir Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et qui siège à Tripoli, et son adversaire qui contrôle l'Est libyen, Khalifa Haftar, ont refusé de se rencontrer à Berlin et ils ne participent pas non plus à la réunion dans la capitale algérienne. Par contre, le chef de la diplomatie du Mali assiste à la rencontre au vu des implications de la crise libyenne en territoire malien, selon un communiqué officiel algérien. Au Mali même, le gouvernement a fixé au 29 mars prochain le premier tour des législatives et le second tour au 19 avril. Ces élections doivent permettre le remplacement de l'actuel parlement de 147 députés dont le mandat a pris fin depuis décembre 2018. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'Assemblée nationale du Mali est à sa deuxième prorogation de mandat. Celle-ci doit prendre fin le 2 mai 2020. Avant cette date, le gouvernement doit organiser de nouvelles élections législatives en vue de remplacer les députés actuels. C'est ainsi que le collège électoral est convoqué le dimanche 29 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national. Cela afin de procéder à l'élection des députés de l'Assemblée nationale. Un second tour du scrutin a lieu le dimanche 19 avril 2020 dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
Ça va nous permettre d'avoir encore des institutions renforcées, des institutions crédibles et avec aux yeux des partenaires et qui pourra vraiment permettre au Mali encore de s'éloigner petit à petit de cette crise que nous avons vécue.
La campagne électorale à l'occasion du premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale est ouverte le dimanche 8 mars à partir de 0h. Elle est close le vendredi 27 mars à minuit. Pour ceux qui aident la campagne électorale pour le second tour, elle est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close le vendredi 17 avril 2020 à minuit. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, le gouvernement a annoncé hier la mise en place de mesures strictes pour empêcher toute propagation du nouveau coronavirus qui continue sa progression en Chine, pays où de nombreux Nigérians voyagent pour les affaires. Plus de détails avec Irénée Herman Umbo.
Les services des aéroports et le personnel du ministère de la Santé nigérian ont été alertés et ont renforcé leurs mesures de surveillance, a indiqué le Centre fédéral de contrôle des maladies. Les voyageurs seront soumis à de nombreuses questions à leur arrivée. Le virus de la famille du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, apparu en décembre dernier à Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait 17 morts et infecté des centaines de personnes. Un premier cas a été recensé aux États-Unis, un homme résident près de Seattle. Hong Kong a aussi signalé son premier cas suspect, mais le résultat des tests sera connu aujourd'hui. Mercredi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a averti qu'une nouvelle propagation est probable. Les autorités britanniques et italiennes ont également annoncé des mesures de surveillance des passagers en provenance de Wuhan. L'OMS a entamé hier une réunion d'urgence qui a été prolongée d'une journée.
En Chine, les autorités ont mis de facto en quarantaine à compter de ce jeudi la métropole de Wuhan au cœur de l'épidémie. Plus aucun train ou avion ne doit en principe quitter la ville de 11 millions d'habitants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, l'Assemblée nationale a adopté mardi un projet de loi qui accorde un parachute doré à tout ancien président élu au suffrage universel. Et ce, à 4 mois de la présidentielle à laquelle le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, a dit ne pas se présenter. La nouvelle loi prévoit que l'ex-président bénéficie d'une villa de très haut standing construite sur les fonds publics, ainsi que d'une allocation unique d'1 milliard de francs burundais. Il recevra en outre les mêmes traitements que le vice-président en exercice durant les 7 premières années et bénéficiera ensuite à vie d'une indemnité égale aux émoluments d'un député. Pour une réaction, Nathalie Borge a joint la Arlette de la diaspora burundaise en Belgique qui souhaite garder l'anonymat.
Ce projet de loi est une aberration parce que dire que le président Nkurunziza a été élu au suffrage universel, c'est vouloir occulter aussi qu'il a voulu briguer un troisième mandat qui était illégal et anticonstitutionnel. Donc sur ce fait-là, c'est une manière de se protéger, contre quoi je ne saurais pas vous répondre, mais c'est aussi une manière d'exclure d'autres présidents parce que même si, peu importe la manière dont ils ont accédé au pouvoir, dans la constitution burundaise, il y avait un article qui consistait au sort qu'on réservait aux anciens présidents. Donc, ça veut dire que c'est enlever le statut d'ancien président aussi, alors qu'on devrait normalement penser à toutes ces personnes qui ont occupé des hautes fonctions comme les présidents et qui méritent une certaine considération, mais qui n'est pas aussi exagérée comme ce projet de loi le présente aujourd'hui.
Alors, que pensez-vous de ces avantages, hein, si l'on tient compte notamment du niveau de vie des populations subissant la crise?
Ça ne fait que consolider la réflexion des personnes qui disent que c'est un président qui ne réalise pas, qui ne veut pas voir la situation réelle dans laquelle la population burundaise vit chaque jour, parce qu'il y a une insécurité alimentaire criante et il y a aussi des gens qui croupissent dans les camps de réfugiés à l'extérieur du pays, qui voudraient bien rentrer. Et le Burundi fait partie des 5 premiers pays les plus pauvres du monde. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont plus à l'école parce que manque d'infrastructures. C'est une décision vraiment aberrante.
Cette mesure confirme-t-elle que Pierre Nkurunziza ne se représentera pas à la présidentielle comme il l'avait annoncé à ce niveau-là? Comment voyez-vous justement ce nouveau développement?
C'est trop avancé pour dire qu'il ne se représentera pas. S'il ne se représente pas, ça sera peut-être en face. Parce qu'il va garder, c'est vrai, tous les honneurs qui sont équivalents aux honneurs du vice-président. Donc ça veut dire que, quelque part, est-ce que réellement il va partir ou il veut toujours garder sa main mise sur la personne qui va le succéder?
Arlette, une membre de la diaspora burundaise en Belgique qui a tenu à garder l'anonymat. On passe à l'actualité aux États-Unis maintenant. Ici à Washington, les procureurs démocrates au procès en destitution du président républicain Donald Trump ont accusé le chef de l'exécutif hier d'avoir mis en œuvre un schéma corrompu pour faire pression sur l'Ukraine afin de favoriser ses chances de réélection à la présidentielle de novembre. Compte rendu, Jean-Roger Bion.
Dans une déclaration d'introduction devant le Sénat où se déroule le procès, Adam Schiff, qui dirige l'équipe des 7 élus démocrates de la Chambre des représentants chargés de l'accusation, a affirmé que Donald Trump avait poussé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à enquêter sur des faits non corroborés de corruption visant l'ancien vice-président Joe Biden, candidat à l'investiture du Parti démocrate pour l'élection du 3 novembre, et son fils Hunter. Rien n'aurait pu être plus dangereux pour une démocratie qu'un chef suprême convaincu qu'il pouvait opérer en toute impunité sans avoir à rendre compte, rien si ce n'est un Congrès disposé à ce qu'il en soit ainsi, a insisté M. Schiff. M. Trump et le camp présidentiel refusent toute malversation. Les règles encadrant ce procès exceptionnel que dirige le président de la Cour suprême John Roberts accordent 3 jours à l'accusation pour présenter ses arguments. La défense disposera d'un délai identique et le procès pourrait s'achever dès la semaine prochaine. Les sénateurs qui font office de jurés auront ensuite 16 heures pour poser leurs questions par écrit. Un premier vote est attendu en fin de semaine prochaine. Les sénateurs devront décider s'ils acceptent de convoquer de nouveaux témoins, comme le réclament les démocrates.
Et pour terminer, politique en Russie, les députés russes ont approuvé ce jeudi à l'unanimité, après moins de 2 heures de débat, l'ensemble des révisions constitutionnelles que le président Vladimir Poutine avait dévoilées seulement 3 jours plus tôt. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.